Bonsoir les amis, je m'appelle Amine et je suis très heureux de vous retrouver en direct pour Open Bail sur News FM. Après 2 semaines d'absence, nous allons à nouveau répondre à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et dans le monde ? Ce soir, pour m'accompagner et nous partager son instant narration, elle est là régulièrement, Mathilde fait son retour dans Open Bail. Salut Mathilde, comment ça va ?
Bonsoir, ça va super bien et toi ?
Eh ben écoute, ça va très bien, quand toi ça va, moi ça va tout simplement. Quoi de beau dans ton instant narration cette semaine ?
Eh bien, j'ai décidé de partir sur un autre concept. Il y a une émission qui passe sur M6 qui s'appelle Marie au premier regard.
Ouais.
Et le concept m'a intéressé, il y a eu une actualité récemment là-dessus. Et du coup, j'ai fait un instant narration sur ce thème-là.
Eh ben, on va en parler. Marie au premier regard, Saint-Valentin, belle ambiance.
En plus, oui.
C'est demain soir, c'est demain, absolument. Un petit coucou à Aymeric qui anime le 16-19 tous les jours sur News FM. Petite dédicace parce que je sais qu'il nous écoute dans la voiture. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Alors, instant narration, histoire, fiction, racontée à la radio, ça existe depuis longtemps en fait, sous forme de feuilleton. Ce sont un peu les ancêtres des séries télé qu'on regarde beaucoup et que pourtant on connaît peu. Et cette semaine, l'histoire des séries télé est à l'honneur à l'occasion du lancement du premier festival de séries de la région. Profitez-en, c'est jusqu'à samedi. Et ce soir, je suis ravi de recevoir dans Open Bail Héloïse Pommiès, la fondatrice du festival Cliffhanger. Bonsoir Héloïse, comment ça va ?
Bonsoir, ça va bien et toi ?
Bah ben écoute, ça va très bien. Comme si on ne s'était parlé avant.
C'est ça.
Je suis très très heureux, on est très très heureux de t'accueillir à l'occasion du premier festival de séries à Grenoble, le festival Cliffhanger.
Tout à fait.
Alors avant qu'on attaque le très redouté portrait chinois, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases ce qu'est un cliffhanger déjà ?
Oui.
Et pourquoi tu as choisi ce nom pour ce festival ?
Alors Cliffhanger, ça vous a évoqué peut-être Sylvestre Stallone.
Sylvester Stallone.
C'est l'émotion du direct. Donc, c'est pas une fausse réponse, puisque Cliffhanger, en fait, c'est le suspense qui est à la fin d'un épisode qui donne envie de voir la suite.
Ouais.
Donc, Cliffhanger qui fait référence, en fait, à la falaise aussi. Cliff qui veut dire falaise. Et ça vient aussi de là, ce titre-là.
Quand on s'accroche à la falaise avant qu'on tombe,
exactement,
on bascule ou pas.
Et qu'on bascule ou pas. C'est ça la question de la fin de l'épisode. Et Grenoble étant entouré de montagnes, c'était un petit clin d'œil pour Grenoble.
Eh ben écoute, à présent que tu as très bien répondu, Mathilde va te faire le redoutable portrait chinois.
Est-ce que tu connais le concept déjà ?
J'en ai entendu parler.
T'as entendu parler de quoi ?
Non mais elle a potassé.
J'ai écouté les autres émissions, j'avoue.
N'aie pas peur Mathilde, fais-le direct, elle est préparée, elle va répondre.
Interrogation. Si tu étais une ville ?
Bah Grenoble.
T'es de Grenoble à la base ?
Non, pas du tout.
Non, ouais. T'as un peu voyagé toi dans ta jeunesse. Hein.
Ouais, j'ai pas mal voyagé, ouais.
Ouais.
Ouais. Faut que je donne les détails, c'est ça ?
Un petit peu.
Ouais, j'ai fait... quand je suis partie en 2008, avec mes parents, on a fait un petit tour du monde pendant 4 mois.
Waouh !
Voilà, donc on a fait Thaïlande, Cambodge, Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, États-Unis. On est retourné en France.
Stylé.
Ouais, c'était magique.
C'est beau tout ça.
Ça fait combien de temps que t'es à Grenoble ?
Ça fait 7 ans maintenant, je commence ma 8e année.
Waouh ! Ouais. Eh bien, une grenobloise pure souche.
On a Mathilde. Tous du mal ce soir. Si tu étais un personnage de fiction, vu qu'on parle de série un petit peu...
Je dirais alors une super héroïne, et bien évidemment, et mon cœur balance pour Buffy.
Buffy ouais. Buffy contre les vampires.
Exactement.
La 6, la trilogie du samedi.
Je l'adore.
Je te laisse en faire un, Mine.
Allez, si tu veux. Allez, tiens, si tu étais un livre.
En ce moment, je lis Toni Morrison. Donc, je voudrais... je parle d'une œuvre de manière générale, mais si je pouvais être... faire référence à Toni Morrison. Voilà, en plus, elle nous a quittés l'année dernière, donc un petit mot pour elle.
Écoute, le mot sera passé. Mathilde.
Si tu étais un dessert.
Oula. Un fondant au chocolat, clairement.
Bon choix.
Si tu étais un sport. J'ai commencé le volley cette année, alors je dirais volleyball.
Allez, j'en fais un. Allez, celui-ci, je l'aime bien. Si tu étais un gros mot, et il faut tout dire.
Je peux dire mince alors ou pas ? Ça marche pas.
Est-ce que c'est un gros mot ? Mathilde,
non,
t'en penses quoi, toi ?
C'est pas vraiment un gros mot.
Je valide pas du tout le.
Allez, Héloïse.
Putain.
C'est mignon, elle est toute gênée à le dire. Alors qu'un bon gros putain de merde, je dis ça. Allez, Mathilde.
Si tu étais une saison,
l'été. Ouais, je suis née en été en plus, j'adore.
La plage et tout.
Pas forcément la plage, mais les voyages, du coup. On est en vacances, donc on profite pour découvrir belles choses.
Mmh. Avec les Fidji, tout ça. Allez, j'en fais un. Allez, bah, très bien. Si tu étais une chanson.
Ah, j'avais pas pensé à la chanson.
Eh oui, tu l'as pas potassé.
Je peux dire une chanteuse ou pas?
Si tu veux, vas-y.
Beyoncé. Ah ouais.
The Queen Bee.
Ah ouais, Queen Bee, c'est surtout son énergie, j'adore.
Ouais. Une chanson de Queen Bee que t'aimes bien?
Hello.
Ouais. Très bien, bah ça tombe bien, on la passera pas. Mathilde, on en fait encore un petit dernier, allez vas-y.
Oui, si tu étais un animal.
Un oiseau. J'ai un petit penchant pour. Alors, ça va faire bizarre, mais j'ai un petit délire autour des toucans, donc.
Des toucans,
voilà.
D'accord.
Ouais, voilà, c'est original. Oui, c'est ça.
Allez, on va continuer. Alors, vous êtes toujours sur Open By, sur News FM. Nous sommes avec Héloïse Pommiès, le toucan, et la fondatrice du festival Cliffhanger, la semaine de la série en ce moment à Grenoble, et jusqu'à ce samedi 15 février. Alors, dépêchez-vous d'aller voir ce festival. Des ateliers, des rencontres, des projections, des conférences. Bref, que des bonnes choses, et pour en parler, musique de la bande-annonce. Alors forcément, bon, la bande-annonce, vu que c'est des images, bah on peut pas les passer.
Ouais. Peut-être préciser que c'est la musique du générique de Jean Demage, une web-série qu'on a passée pendant le festival.
Web-série grenobloise.
Tout à fait.
Yes. Du coup, festival organisé par la Cinémathèque de Grenoble, qui a commencé depuis le 9 février. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir jusqu'à samedi, puisque nous sommes jeudi aujourd'hui?
Tout à fait. Alors, à 20h, pour ceux qui écoutent pas la radio, c'est important de le préciser, on a une programmation internationale, donc elle a commencé ce soir avec The Killing,
qui est la
série danoise qui a inspiré la série américaine du même nom.
The Killing aussi.
Qui passe sur Netflix, en l'occurrence. On a à 20h la projection de Prisoners of War, de son nom original Atufim. Ouais, ce soir.
Mais du coup, la série a commencé. Du coup,
et la série a commencé, mais c'est pour annoncer la suite aussi.
Ouais, on va en reparler plus en détail après,
ouais,
t'inquiète pas.
Donc, qui a inspiré la série Homeland.
Ouais.
Donc, ensuite, le vendredi 14 février, on a l'épisode 2 de The Killing qui a commencé ce soir. Et demain soir, pour la Saint-Valentin, on a quand même prévu une petite séance spéciale avec le premier feuilleton du cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder qui s'appelle 8 heures ne font pas un jour et qui raconte l'histoire entre une jeune femme moderne et un jeune homme qui lutte pour ses droits au travail. Et c'est une très belle histoire, je vous invite à y aller.
Eh bien, les auditeurs en auront pris note. Dans ta présentation du festival, tu écris « Cliffhanger, la semaine de la série, nouveau festival organisé par la Cinémathèque de Grenoble, on vient de le dire ». Ce festival est né de ce désir de faire découvrir la série sous toutes ses formes, de parcourir son histoire et de comprendre ses origines. Alors ce que je te propose, c'est qu'on parcourt ton histoire au regard des séries télévisées. Ça nous permettra de parler du festival et de comprendre l'histoire des séries tout en te connaissant mieux. Alors je te propose pour commencer, parle-nous un peu de ton enfance, de ton rapport aux séries quand t'étais enfant.
Alors j'ai beaucoup grandi avec la télévision.
Ouais.
J'ai beaucoup regardé les séries d'M6, avec Charmed notamment, ouais. Il y avait Smallville aussi à l'époque.
Yes.
C'est des séries que j'ai pas mal regardées.
C'était le samedi soir, ça?
Je me souviens plus, mais je me souviens plus exactement des jours, mais oui. Et donc je regardais beaucoup ça. Après, c'est vrai que je me suis un peu éloignée des séries pour aller plutôt vers le cinéma.
Ouais.
Mais j'y suis revenue en me repenchant justement sur les séries et sur des grands classiques notamment. Les classiques HBO, en fait.
On va y revenir tout à l'heure, mais tu parlais des séries Charmed et tout. Mathilde, est-ce que tu peux nous mettre le générique de Charmed? C'était juste pour te faire plaisir, ça.
Ah ouais. Nostalgie.
C'était sur M6 à l'époque. Il y avait d'autres séries dans la trilogie du samedi. Il y avait X-Files, Buffy contre les vampires que tu as évoqué tout à l'heure. Mmh. Charmed avec Alyssa Milano.
Ouais, la grande Alyssa Milano.
La grande Alyssa Milano qui a popularisé le hashtag MeToo plusieurs années plus tard. On va en reparler.
Oui.
C'était les années 90 à l'époque. Âge d'or des séries, paraît-il?
Oui, alors il y a eu plusieurs âges d'or, mais celui qu'on remarque le plus, c'est quand même celui des années 90, avec notamment la naissance de chaînes câblées.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, les chaînes étaient donc ce qu'on appelait des networks.
On parle aux États-Unis notamment.
Aux États-Unis notamment, évidemment. Donc network ou public, hein, pour comprendre un peu par rapport au système français, hein, si on peut comparer. Et donc sont apparues ces chaînes câblées, donc qui fonctionnent sur un système d'abonnement et sans publicité. C'est-à-dire que les auteurs, à un moment donné, en ont eu assez, entre guillemets, hein, de dépendre en fait des diktats de la publicité, mais aussi voilà, de ce qu'imposait l'État, par exemple, sur un vocabulaire qu'on ne pouvait pas utiliser ou des sujets qu'on ne pouvait pas utiliser.
On ne pouvait pas dire des gros mots avant 22 heures.
Et on pourra aussi en parler tout à l'heure, mais par exemple, ouais, tout ce qui est sexualité, etc., c'est des thématiques qui n'étaient pas forcément abordables. Ou en tout cas, on utilisait d'autres mots pour évoquer certaines parties du corps. Exactement. Et donc, ils ont créé ces chaînes. Et la plus connue, c'est aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, c'est HBO. Mm-hmm. Et donc, l'objectif d'HBO, qui a ce fameux slogan « It's not TV, it's HBO », ce n'est pas de la télé, c'est HBO, qui est assez provocateur, hein, vis-à-vis des autres chaînes de télévision, c'était de laisser carte blanche aux auteurs. Et c'est ce qui a fait naître Les Sopranos, The Wire, Oz et autant de séries aussi belles que ça.
Et oui, c'est ça. Et ça a commencé à se développer, des années 90. À l'aube des années 2000, hein, ces nombreuses séries, Sex and the City aussi, The Wire, tu l'as dit.
Tout à fait.
Et Les Sopranos, une série sur la mafia qui est devenue cultissime. Avec le jingle de HBO aussi.
Oh. Ah, je l'adore. Et ça me fait plaisir que vous mettiez ce son-là de générique parce que c'est vraiment une série qu'il faut voir à tous ceux qui l'ont pas vue.
6 saisons.
Ouais, j'espère qu'on pourra la passer un jour.
Les Sopranos, un jour dans le festival. Mathilde, bête un petit peu.
Oui.
Merci.
Cette série, il paraît que ça a été un déclic pour toi, un peu.
Ouais.
Une de ces séries HBO.
Ouais, ça a été un déclic pour moi. C'est vrai que quand je suis retournée vers la série, comme je disais, j'étais plutôt sur le cinéma et la série, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas du tout en fait dans mes cours. J'étais aussi dans plutôt documentaire et c'est pas des choses que je regardais ou en tout cas qu'on étudiait en fait. Et en études cinématographiques, on aborde aussi tout ce qui est le politique dans le cinéma, la qualité esthétique évidente du cinéma. Et en fait, la télévision, en fait, il semblerait qu'il y ait on se met en recul en fait par rapport à la télévision, comme s'il y avait quelque chose qui était moins bien, alors qu'en fait il y a des choses formidables qui se font à la télé et Les Sopranos, pour moi, ça a été une révélation parce que c'est d'une créativité impressionnante, des personnages qui évoluent sur 6 saisons, qui sont vraiment, vraiment impressionnants. Et puis surtout, le personnage du... les mauvais personnages, en fait. C'est-à-dire
les méchants.
Les méchants, tout à fait, qui sont en fait les héros, les anti-héros. Et ça... Voilà, c'est quelque chose que j'ai redécouvert avec grand plaisir et ce qui m'a donné envie de continuer après, de regarder les autres séries et puis de penser à ce projet-là. Quoi.
Oui, voilà, parce qu'à l'époque, tu le disais, hein, tu faisais des études de cinéma et il y a ce décalage entre le cinéma, les séries, le 7e art, le 8e art. Parce que quand les gens du cinéma croisent des gens de séries télévisées, ils ne les considèrent pas d'une manière très confraternelle.
Eh, hey, mais c'est les minables.
Ça sort tous.
Et l'année des garçons, les années 90.
Ah oui, d'accord. Mais c'est en train d'évoluer, par contre. Hein. Donc évidemment, je dis ça. Mais par exemple, là, pendant le festival, on a passé Les Sauvages, qui est une série qui a été créée par l'auteur Sabine Loisa.
On va en reparler tout à l'heure, ouais.
D'accord. Et de Rebecca Zotowski, qui est en fait une cinéaste et qui a aussi un casting de gens qui viennent du cinéma. Donc c'est en train de changer.
Alors oui, et ce qui est marrant en plus, c'est qu'à la base, les séries du début du XXe siècle, qu'on appelle les céréales, c'est des films au cinéma, coupés en morceaux. Raconte-nous un petit peu cette historique-là des céréales du début du XXe siècle, parce qu'en plus, vous en parlez dans le festival.
Oui, en effet, on a programmé Fantomas de Louis Feuillade, qui est un céréal en 5 épisodes.
Des années 1910, je crois.
1913, exactement, ouais. 1913-1914, qui raconte en fait l'histoire de Fantomas, qui est un bandit, qui est poursuivi par un journaliste et un détective, donc Juve et Fandor. Et donc, il passe 5 épisodes à essayer de traquer ce redoutable bandit.
C'est bien teasé. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une intrigue c'est une intrigue policière, comme on a l'habitude de voir dans les séries aujourd'hui.
Ouais.
Et en fait, on retrouve dans les céréales tous les codes de la série télé, si ce n'est que c'était diffusé en salle de cinéma. Et bien, il y a le suspense, il y a l'intrigue policière, il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect populaire. En fait, le cinéma, ça a été populaire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas dans le milieu, ça a été populaire. Et en fait, les céréales viennent aussi de ce milieu populaire. Ça déplaçait énormément de foule. Les gens, ils venaient de semaine ou de mois en mois, selon le rythme de diffusion.
Ouais, bien sûr.
Et donc, on retrouve en fait ce côté série, puisqu'on va regarder tous les soirs son feuilleton, on va regarder toutes les semaines la nouvelle sortie. Et c'est exactement le même principe, sauf qu'en effet, c'était diffusé en salle et c'était tourné. C'était tourné aussi de manière. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans sa manière d'être écrite et d'être tournée. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent, ça a évolué, mais à l'époque, à la télévision en tout cas. Les séries s'écrivent au jour le jour en fait, parce qu'on demain aussi bien si l'audience marche pas, on va arrêter la série. Ouais. Et à l'époque, ça se faisait à peu près pareil.
Mais les séries aussi, ça faisait pareil, ça s'écrivait vraiment au fur et à mesure. Si on voyait qu'un épisode était moins populaire, on retravaillait pour l'améliorer. C'était.
C'est ça. Et d'ailleurs, ils ont arrêté Fantomas parce que la série était censurée. La série a été censurée parce qu'à l'époque, c'était. Alors, on était avant la guerre. On était en 1913, 1914 arrivé. Il y avait de moins en moins d'acteurs qui étaient disponibles. Donc, il y a eu aussi ces contraintes-là par rapport au fait qu'ils étaient envoyés aussi sur le terrain.
Bien sûr.
Et donc, ils ont dû arrêter la série parce qu'en fait, c'était assez mal vu de... en fait, le héros, c'était un bandit, quoi.
Ah, cette question justement d'anti-héros, est-ce qui t'intéressait aussi dans les Sopranos.
Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant et ça vaut le coup de regarder parce que c'est hyper créatif. Et on a beaucoup ri pendant la séance.
Ça marche. On peut le retrouver sur YouTube ou pas? Non, ou faut le chercher?
Je sais pas ça, j'avoue, j'ai pas regardé.
Parce que après, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le côté un peu patrimonial, de retrouver des choses anciennes, de les remettre en valeur, c'est un peu ce qui t'intéressait aussi.
C'est l'avantage de travailler avec une cinémathèque en fait, c'est qu'elle dispose d'archives, elle dispose de fonds, que ce soit des films ou des non-films, parce qu'on fait aussi on montre aussi des romans feuilletons. Je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais
oui, on allait en parler après, mais tu peux en parler maintenant si tu veux.
En fait, elle dispose d'archives et notamment de romans feuilletons, qui est encore l'ancêtre en fait des feuilletons au cinéma, puisque les gens découvraient des histoires de semaine en semaine dans les journaux.
Ouais, c'est ça.
Donc ça vient aussi de là. Et en fait, les séries s'inspiraient de romans feuilletons, ce qui est le cas de Fantomas, puisqu'à la base c'était des romans feuilletons de Marcel Alain et Pierre Souvestre, et donc 2 ans après. Louis Feuillade a fait le choix d'adapter en fait ce roman feuilleton au cinéma.
D'accord. Et un siècle plus tard, la série devient le phénomène de société qu'elle a toujours été en réalité, c'est ce que tu nous expliques. Et en France, des festivals dédiés aux séries commencent à apparaître. Sériemania à Lille, Cannes Série à Cannes, comme son nom l'indique. Et après tes études, tu décides de lancer ton propre festival avec la Cinémathèque de Grenoble. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris alors? Raconte-moi.
Je me suis dit que c'était le moment ou jamais.
À quel moment ça a été le déclic?
Je marchais dans la rue.
Est-ce que c'était à Val-Thorens?
Ouais, c'était à Val-Thorens. Ouais. J'étais avec mes parents, donc, qui sont saisonniers à Val-Thorens. Et donc, je marchais dans la rue avec ma mère. Et puis, d'un coup, je me suis dit, ça serait génial de faire un festival de séries, quoi. Et elle m'a dit, pourquoi pas? Et je me suis dit, si on le faisait à Val-Thorens. Et je me suis dit, Val-Thorens, c'est bon, il y a déjà tous les touristes, ils ont déjà le ski, ils ne vont pas venir voir ça. Et je me suis dit...
Ils sont déjà assez gâtés comme ça, richoux qui vont à Val-Thorens.
Je pensais par exemple au Festival de Comédie d'Alpe d'Huez, c'est des choses qui se font. En fait, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, parce que je suis à Grenoble, je pense qu'il y a des choses encore à faire à Grenoble, il y a déjà beaucoup de festivals de cinéma, etc. Et en fait, les séries, il n'y a pas de festival dédié à ça, et comme je suis sur Grenoble...
Il
n'y
en a pas dans la région d'ailleurs, ça on peut le dire.
Ouais, alors il y a parfois des épisodes qui sont passés dans certains festivals. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais en tout cas, de festival dédié à ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et du coup, vivant à Grenoble, aimant cette ville, et ayant la possibilité, cette opportunité de développer ça, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Quoi.
C'est maintenant ou jamais, et heureusement, tu pouvais compter sur le soutien de certains et certaines de tes amis.
Coucou Hello, je profite de cet instant radio pour te féliciter une énième fois. Surtout ne change rien, c'est comme ça que tu nous régales et continue d'avoir des idées aussi brillantes. Avec toute mon affection, je t'embrasse très fort.
Elle est adorable.
C'est ton amie Justine.
Oui, je pense qu'elle nous écoute, j'ai fait un gros bisou, merci.
Le bisou sera passé et là elle va peut-être m'envoyer un petit message me disant « Ouais, c'est bon, c'est bien passé, c'est ça. » Et oui, mais parce que du coup, c'est vrai que les séries, c'est vraiment un phénomène. On en voit de plus en plus de séries d'ailleurs. Avec aux États-Unis, tu l'as dit, l'émergence des chaînes câblées, les services de streaming, les Netflix, les Disney+, les Apple TV, blablabla.
On parle de guerre des plateformes aujourd'hui.
Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé un chiffre. On est passé aux États-Unis de 180 séries produites chaque année en 2002. 180 séries. Et en 2018, tu sais, on en a combien?
Plus de 300.
Plus de 500.
Plus de 500.
Plus de près de 500. Près de 500.
Mais que aux États-Unis, alors imaginez dans le reste du monde.
Imaginez dans le monde entier. Est-ce que pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Le fait qu'il y ait de plus en plus de séries.
Je pense que c'est une bonne chose.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est une bonne chose parce que Chacun y trouve son compte aussi, c'est important. Je trouve que c'est bien qu'il y ait aussi ces plateformes-là qui donnent une offre assez grande. Après, il reste le plaisir de les voir en salle, et nous, c'est ce qu'on aime bien aussi.
Ouais.
Mais non, pour moi, c'est les gens vont toujours en salle de cinéma, comme ils vont regarder en fait des choses chez eux. Donc, et d'ailleurs, la fréquentation des salles, elle a été en hausse l'année dernière, et comme quoi, ça se perd pas du tout. Et il faut s'adapter aux technologies, il faut s'adapter aux pratiques, et ça ne veut pas dire qu'on fait des choses plus ou moins bien, forcément.
Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi dans le festival de séries, c'est que souvent la série, c'est quelque chose que tu regardes à la maison, en solo, t'es chez toi et tout, alors que là, il y a des projections de séries, les gens se retrouvent, peuvent échanger, peuvent aussi avoir des conférences, c'est ça qui est intéressant aussi.
Oui, alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire en fait avec ce festival. C'est vrai que les gens ont tendance à regarder ça dans un cercle familial. Pour autant, ils en parlent beaucoup au quotidien avec les personnes qui côtoient.
Et sur les réseaux sociaux aussi.
Ouais. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on regarde ça chez soi qu'on n'en parle pas. En revanche, on n'a pas une pratique de visionnage en commun. Contrairement à ce qu'il y a en salle de cinéma, où pour le coup, quand on va au cinéma, ben on va choisir ce qu'on va regarder, là où dans Netflix, on va un peu naviguer, etc.
Dans d'autres pays, ça se fait un peu plus, ça. Justement, le fait de regarder des séries en commun à plusieurs, ou c'est vraiment dans le monde entier, c'est la pratique de la série télévisée, en tout cas, qui est plus solitaire, on va dire.
Je sais pas. Je pense que les plateformes ont apporté ce côté un peu solitaire, parce que c'est à portée de main. En revanche, quand Game of Thrones est ressorti, là, a fait sa dernière saison, ils ont sorti à la télévision à des heures, aux mêmes heures qu'en fait qu'aux États-Unis, et les gens se retrouvaient sur leur canapé tous ensemble entre amis pour regarder les séries, en fait. Donc, j'ai oublié la question, mais en fait,
la question c'était dans ce que vous faites avec le festival, justement pour rassembler les gens autour de séries et des projections.
C'est ça. L'idée c'est de se retrouver, de parler, d'échanger ensemble en fait autour de ces séries qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas. Et puis l'intérêt c'est aussi d'avoir des personnes qui présentent ces séances-là. Nous on essaie d'avoir des personnes qui vont contextualiser en fait la série, comment est-ce qu'elle se situe dans l'histoire de la série, mais aussi dans son histoire, bah, soit à échelle nationale. Là, on a présenté une série danoise, donc ça a été présenté ce soir par rapport aux thrillers, par rapport aux autres séries qui se font dans ces pays nordiques, etc.
Ouais.
Donc c'est toujours intéressant d'apporter des éléments, je trouve, à la série. Ça lui donne de la crédibilité aussi. Et ça permet d'aller plus loin aussi dans des réflexions à la fois esthétiques, mais aussi sur la société, par exemple.
Ouais. Voilà. On va en parler tout à l'heure, justement de comment les séries justement devient le miroir ou le reflet de la société. C'est d'ailleurs le sujet de la conférence que tu présenteras samedi à 16h, Bibliothèque Catabiasine. Merci. Alors nous allons écouter un titre, Héloïse, que tu as choisi. Oui. Il s'agit de Iris Dement, Let the Mystery Be. Mais avant d'attaquer la seconde partie d'Open By, puisque c'est le festival Cliffhanger, nous devons faire un cliffhanger avant de faire cette seconde partie. Alors Héloïse, j'ai une déclaration à te faire. Bien que ça fasse deux jours qu'on se parle, à la contre-cœur, j'ai décidé de rompre avec toi. Alors, comment Héloïse va-t-elle surmonter sa rupture avec Amine, alors qu'elle n'a jamais été avec lui et que ça fait deux jours qu'elle le connaît ? Mathilde nous racontera-t-elle enfin un instant narration qui finit bien ? Et Amine arrêtera-t-il de faire des transitions foireuses pour masquer son manque évident d'imagination ? Toutes ces questions, sans aucune réponse. Dans quelques instants, juste après, Iris Dement, Let the Mystery B.
Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. Some say once gone, you're gone forever, and some say you're gonna come back. Some say you rest in the arms of the Savior if in sinful ways you lack. Some say that they're coming back in a garden, bunch of carrots and little sweet peas. I think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. I think I'll just let the mystery be.
Vous êtes toujours sur News FM dans Open By en direct, il est 20h27. C'est une émission que vous pouvez écouter à la radio le jeudi soir, 20h, mais aussi en podcast quand vous voulez. Suivez d'ailleurs notre actualité sur Instagram, @openby. Je suis toujours avec notre invitée Héloïse Pommiès, fondatrice du festival de série Cliffhanger, organisé par la Cinémathèque de Grenoble jusqu'au 15 février. Dépêchez-vous. Et Mathilde, qui nous partagera tout à l'heure son instant narration. Alors, Héloïse, tu as choisi de partager avec nous la chanson que nous venons d'entendre, Let the Mystery Be, de la chanteuse Iris Dement. T'as vu l'accent ? Pourquoi avoir choisi de partager ce titre avec nous ?
Parce que c'est la musique qui est utilisée pour le générique d'une série que j'aime beaucoup, qui est en l'occurrence The Leftovers, qui est passée sur HBO.
Pour changer.
Pour changer. Et qui a été faite par Damon Lindelof, qui est le créateur de Lost, en l'occurrence.
Ouais.
Et donc, il a créé cette série The Leftovers qui est pour pitch rapidement.
Vas-y, je t'en prie, rapidement,
un 14 octobre, 2% de la population mondiale disparaît sans raison. Et ça a l'air assez tragique comme ça, mais il en tire des personnages extrêmement beaux et une philosophie de vie qui est incroyable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous.
2% de la population qui disparaît, spécial. C'est comme si sur le plateau, 2% des personnes disparaissaient. C'est-à-dire on perd un bras, une main, quelque chose, je ne sais pas.
Ouais.
Réfléchir à ça. Et ce qui serait un très très bon sujet d'actualité, comme celui que tu as voulu partager avec nous, c'est le journal de notre invitée, Héloïse Pommiès. BFM TV, priorité au direct.
Ah non, pas BFM, s'il vous plaît.
Je pense qu'on va parler d'un sujet un peu plus high level que ce qui passe sur BFM TV. Ils doivent sûrement parler de Macron, je sais pas quoi. Puisque ce soir, Héloïse, tu as voulu remercier, rendre hommage à toutes celles et ceux qui luttent pour défendre les droits des femmes, qui passent aussi, selon toi, par les images qui sont renvoyées d'elles dans les médias.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique pour toi ?
Alors, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les thèmes que vous proposez ici, mais c'est vrai que c'est important aussi pour quelqu'un qui organise un festival en tant que femme, de se dire qu'on peut réussir dans ce milieu-là. Je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on en parlait tout à l'heure, de MeToo, qui a été initié aussi par ces femmes, ces actrices. Et je trouve, je voulais leur les remercier pour le courage qu'elles ont en fait de témoigner. Récemment, Adèle Haenel qui l'a fait aussi.
Ouais.
Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Et grâce à elle, en fait. La manière de filmer les femmes, de représenter les femmes dans les séries, elle évolue beaucoup. Et même au cours de séries elles-mêmes, c'est-à-dire que d'une saison à l'autre, du coup, ils ont parfois changé leur manière de filmer les femmes. Et c'est important. Aujourd'hui, on vit... Alors, j'ai la chance de pas souffrir de ça, mais pour en entendre des témoignages, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça et c'est pas normal.
On est d'accord, on est d'accord. Je sens un petit peu d'émotion dans ta voix, c'est mignon, c'est vraiment... Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent, et quand on a des invités EES dans l'émission, c'est un sujet qui est quand même... qui revient souvent dans l'émission et dont on aime bien aborder, parce que c'est un sujet qui est important dans les séries, mais pas que dans les séries, même dans les médias de télévision, dans les plateaux télé, c'est compliqué aussi. Écoute cet extrait d'un reportage réalisé par Acrimed sur la question « Les médias sont-ils sexistes ?»
Une question qui n'est pas si anodine que ça, mais qui est très importante. Allez. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ?
Bonjour Fleur Pellerin. Savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisie ? Parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité, peut-être parce que aussi vous êtes compétente. Est-ce que vous le savez vraiment ?
Alors, sexy, Ségolène Royal.
Sexy, belle femme, coiffure hollywoodienne ? Drôle de vocabulaire dans une interview politique.
Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de...
Nos médias seraient-ils sexistes ? Regardons ça de plus près. Tout d'abord, le temps de parole. 30,4%, c'est le temps de parole que l'on accorde aux femmes dans les magazines de plateau, selon le CSA. Il nous apprend également qu'elles gardent moins longtemps la parole que les hommes. Les femmes auraient ainsi moins de temps pour développer leurs propos et pour s'affirmer sur un plateau.
Embauchant un monsieur qui auparavant était
très bien, mais ça résout pas le.
En clair, on leur coupe tout le temps la parole.
Je suis très contente que.
En général, c'est ça, mais c'est le symbole.
Ça n'est jamais scandaleux politiquement de reconnaître.
C'est-à-dire de faire une politique.
C'est là où existent les freins, en vérité.
Ça n'a rien à voir avec Syriza, tout ça.
Où on fait en sorte qu'on vit mieux.
Ne parlons pas des autres.
Bon, Louis, est-ce que ça t'inspire quelque chose alors?
Ouais, ça me fait de la peine parce que j'ai.
Non, mais attends, je sais pas que je voulais la parole, mais là tu réponds pas à la question quand même.
Oui, ça m'inspire quelque
chose. Non, mais attends, là. Bon, vas-y, Louis, là c'est bon,
écoute, Amine, c'est bon, t'es bien gaulé, mais quand même, on va pas.
Oh, merci.
Bon, retournement de situation.
On me réduit à mon physique, c'est terrible.
C'était quoi la question du coup?
La question,
parce que j'ai pas très bien saisi. Non, mais je
voulais dire que c'était. Enfin, par rapport au reportage qu'on a fait, c'est
attention. Non, l'idée, réaction, c'est pas d'en arriver là.
Une réaction, quoi. Comment on fait, par contre? Bah, vas-y, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire quelque chose qu'on vient d'entendre?
Non, mais c'est surprenant de toujours, en effet, couper la parole, rapporter tout ça au corps. Enfin, bon, ça n'a aucun intérêt. On a des choses à dire comme tout le monde. Donc voilà, en effet, le CSA, ils font bien de faire ces rapports-là. Et malgré ça, d'ailleurs, à quel point ça évolue,
ça évolue encore.
Mais
si ça évolue pas, le sujet est quand même un peu c'est assez, posé. Ouais.
Voilà, le sujet est posé, ça a le mérite d'être posé, déjà, mm-hmm. C'est bien. Et après, ben, où est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, derrière, quoi.
Et justement, la prise de parole des femmes, notamment, comment tu perçois, toi, le mouvement MeToo, qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure avec Alyssa Milano?
Il a été très important. Ouais. Il a d'ailleurs fait naître des métiers qui sont importants au cinéma,
ouais.
Puisqu'on parle aussi de ça aujourd'hui.
Oui, on parle de cinéma, on parle de séries.
On parle de cinéma, on parle de séries. Alors juste pour dire déjà que le fait que ça soit des personnalités qui aient créé ça, c'est bien parce que ce sont des personnes qui sont très regardées par les jeunes générations. Et aussi par les anciennes générations, mais le futur, c'est aussi les jeunes générations. Donc
comme
Alyssa
Milano, de Charles.
Comme Alyssa Milano, exactement. Et c'est important que ce soit voilà, des personnalités comme ça qui le fassent, mais je pense qu'elles en ont conscience tout à fait. Et que c'est bien que ce soit elles qui le fassent. Je répète tout le temps la même chose, je suis désolée. Mais
non, il n'y a pas de souci, justement, là, mais, parce que tu parles de série. Non, vas-y, tu voulais dire quelque chose.
Non, je voulais dire juste que voilà, le fait que ça soit des personnes qui incarnent une vraie personnalité et qui aussi, ben, quand on regarde des actrices, on imagine la carrière, on s'imagine derrière tout ça. Et,
ouais.
Et c'est bien de dire ce qui se passe, de dénoncer ce qui se passe pour qu'on continue quand même à faire ces carrières-là et que ça soit mieux géré.
Ce que j'aime beaucoup chez toi, Héloïse, malheureusement, c'est de la radio, mais les gens ne le voient pas, c'est la gestuelle avec laquelle tu parles avec beaucoup de gestes.
Et pourtant.
Et j'aime beaucoup. Puisque moi aussi, je parle avec beaucoup de gestes. Alors, dans les séries, justement, comment ces enjeux-là, ils apparaissent? Est-ce qu'ils apparaissent de plus en plus? Comment est-ce qu'ils apparaissent? Comment est-ce qu'ils traitent les séries, abordent les sujets, donc des violences sexuelles, forcément, mais aussi du féminisme et des discriminations sexistes? Comment est-ce qu'ils l'abordent maintenant?
Bah, de différentes manières, avec des séries soit comiques.
Ouais.
Soit très tragique.
Tu penses à quoi?
Alors, tout de suite, là, je pense à Handmaid's Tale, par exemple.
Ouais, La Servante Écarlate.
La Servante Écarlate, qui a énormément fait parler d'elle. Tout simplement parce qu'elle montre. Voilà, c'est très
tu
violent.
Tu peux
hein.
rappeler le pitch en deux,
oui,
en deux trois phrases?
En fait, ça se passe aux États-Unis. Il y a des nouvelles lois qui passent. Et donc, il y a les femmes perdent leur travail. Il y a beaucoup de gens qui commencent à migrer au Canada, ils sentent que voilà, ça se passe pas très bien. Et en fait, il s'avère que des personnes qui sont donc des hommes, des couples hétéros en l'occurrence, qui sont stériles et veulent à tout prix des enfants, il y a quelque chose de très religieux aussi derrière ça, ils vont s'accaparer ces femmes qui ont des familles et qui sont fertiles pour donc les violer et avoir des enfants. Qui sont du coup pas nécessairement les leurs, mais ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un enfant et fonder une famille. Et donc, Handmaid's Tale a été une série qui a énormément fait parler d'elle. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont regardée et qui m'ont dit « Regarde là, c'est absolument dérangeant et il faut que ça soit fait. » Et d'ailleurs, pour avoir bossé un peu là-dessus, parce que je vais en parler dans ma conférence, dans le générique, ça parle beaucoup de « il faut se réveiller, on ne s'est pas réveillé, on a attendu, on a laissé faire, et c'est arrivé, et c'est trop tard ».
D'accord.
Et du coup, il faut agir.
Et si on précise que c'est un univers dystopique, donc c'est…
Tout à fait, dystopique, c'est une dictature, etc. Donc là, je pense à Handmaid's Tale, qui a d'ailleurs inspiré des mouvements féministes, des marches dans le monde, où les femmes se sont habillées en fait comme les servantes. Mm-hmm. Donc c'est dire à quel point quand même les séries peuvent passer des messages forts parce que justement elles sont populaires et parce qu'elles touchent beaucoup de monde, et que tout de suite quand on a vu ces femmes habillées comme les servantes écarlates, il n'y a même pas eu besoin de mettre des mots, quoi. On a tout de suite compris de quoi il s'agissait.
Et on a la référence.
Et on a la référence. Ça, après, il y a des séries qui sont beaucoup plus drôles. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai acheté le magazine. Je ne sais pas si on a le droit de dire les noms des magazines.
Vas-y,
mais,
je t'en prie.
Le magazine Sofilm, là, qui met en avant Phoebe Waller-Bridge, qui joue dans Fleabag. J'en ai entendu beaucoup parler.
Ouais.
Je ne l'ai pas vu encore, mais c'est dans ma longue liste de séries à voir, qui sont des séries beaucoup plus...
plus légère.
Plus légère.
Ouais.
Moi, je pense tout de suite à une série que j'aime beaucoup, de l'humoriste Pamela Adlon, qui passe sur FX, qui s'appelle Better Things.
D'accord, je connais pas cette série.
Et en fait, c'est assez drôle parce que, en fait, même quand on parle des femmes, on a tendance à penser aux jeunes femmes.
Mais
comment sont représentées aussi les femmes plus âgées, les mères de famille. Et en l'occurrence, dans Better Things, cette Pamela Adlon, qui interprète un peu son personnage, puisqu'elle est actrice aussi, elle a trois filles qui ont un caractère bien... elles ont toutes un caractère vraiment impressionnant.
Ouais.
Et en fait, elle est célibataire, elle s'est séparée de son mari, elle doit s'occuper de ses trois filles.
Ouais.
Et elle a 40 ans, elle doit s'occuper de ses trois filles, gérer ses filles et son boulot, quoi. Et en fait, on la suit, c'est des comédies, donc c'est sur du 20 minutes.
Ouais.
Et donc, on la suit, on la voit aller au gynéco, on la voit galérer avec ses mecs. Elle dit, ah, putain, je suis encore fertile, c'est un truc de fou, les meufs, j'en reviens pas. Enfin, et du coup, elle parle de plein de trucs comme ça, et c'est vraiment hilarant, j'adore cette série. Et voilà, il y a différentes manières de l'aborder. Voilà.
Vas-y, c'est très bien. Parce qu'il y a quelques temps, d'ailleurs, là, on avait reçu Mathis Druel dans l'émission, qui est le deuxième meilleur orateur de France, pour l'anecdote, qui est de la région grenobloise, et qui nous expliquait, dans ses lectures, qu'il lisait davantage de livres écrits par des femmes, parce que les personnages féminins sont mieux écrits, sont plus fins, sont souvent plus intéressants que les personnages féminins écrits par des hommes. Est-ce que c'est pareil dans les séries ? C'est quoi la place de la femme créatrice de séries ? Là, tu parlais un petit peu de Better Things. Est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça, justement, où, créées par des femmes, des séries comiques ou plus sérieuses, qui, justement, permettent d'avoir un autre regard ?
Ben, ce qui fait la force là, des séries qui sortent aujourd'hui, c'est que, et c'est le cas de Pamela Adlon avec Better Things, c'est qu'en fait, elle est à la fois créatrice de la série et à la fois elle interprète son personnage.
Ouais.
Et est-ce qu'on est obligé de passer par là, en fait ? D'être à la fois la personne qui écrit son personnage, justement, pour montrer un personnage féminin qui correspond, en fait, à...
En gros, si on porte pas tout, on peut pas avoir un personnage féminin bien écrit.
C'est une question que je pose.
C'est une question que je pose.
C'était le cas de Lena Dunham aussi, avec Girls.
Ouais.
Qui a repris donc Sex and the City, qui en l'occurrence était réalisé par un homme,
Darren
Star. Voilà, on a fait la recherche. Et et en fait, elle, c'est ça que j'en parlais l'année dernière. Je faisais une conférence justement là-dessus. Elle a repris en fait Sex and the City avec quatre personnages féminins qui vivent à New York, mais qui pour le coup, alors j'ai pas beaucoup vu Sex and the City, donc vous en saurez peut-être mieux que moi, mais qui n'ont pas des corps de bimbo, enfin qui sont un peu top modèles, qui vivent pas, qui sont pas super riches, mais elle va vraiment avoir des gestuels avec son corps et qui sont complètement différentes. Enfin, elle est un peu rondelette, elle mange des cupcakes, elle adore ça. Enfin, elle parle beaucoup de ça et je trouve que c'est assez intéressant justement de voir cette différence entre ces deux séries qui partent en fait de thématiques, enfin même de personnages qui sont à peu près, enfin d'une histoire qui est à peu près la même.
Oui, bien sûr.
Et comment elles le traitent autrement derrière.
On parle de la même trame, donc quatre femmes de New York, de la série des relations amoureuses, et on arrive à des directions différentes parce que les personnalités sont différentes, et on veut aussi montrer une autre réalité qui correspond peut-être aussi à une autre époque.
C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que les deux ont été produites par HBO.
Oui.
Et qu'en fait, on voit bien que Sex and the City, c'était une série qui a révolutionné en fait le regard sur les femmes, parce qu'elle part de leur sexualité, etc. Mais on en a refait une avec Girls, qui parle encore de ces sujets-là, mais autrement. Et du coup, comment
est-ce que c'est pas une question d'époque, tout simplement? Je veux dire que si la série avait été faite dans les années 80, elle aurait été faite d'une autre façon, 90 d'une autre façon, 2000, 2010. Et peut-être qu'en 2020, il y aura une autre série équivalente de la même façon, avec peut-être des personnages. Parce que du coup, dans Girls, les quatre actrices sont blanches, on va dire.
Oui, il y a aussi cette question aussi, de la diversité, évidemment, qui, à mon regret, n'est pas dans Girls, mais qu'il faut aussi prendre en compte, bien sûr.
Et du coup, cette introduction-là sur les séries par rapport au féminisme nous permet aussi d'aborder ta conférence, les séries, oui. Quelles, entre parenthèses, miroir de notre société, Bibliothèque Kateb Yacine, samedi prochain, 16h, on l'a pas mal dit, on continue à le dire, ça nous fait plaisir.
Ouais, il faut le dire, c'est bien.
Alors, question simple, brève, est-ce que les séries sont en phase avec la société aujourd'hui?
Oui.
Merci, je dirais bonne soirée.
Alors, non, pour parler un peu de ce dont je vais parler.
Oui.
C'est que les séries, c'est un phénomène de société.
Ouais.
Leur rôle dans la société, il n'a jamais été évident. On en a parlé, hein, la place de la télévision, comment est-ce qu'on considère aussi ce qui se fait à la télévision.
Bien sûr, la dualité populaire, cinéma.
Exactement. Ouais, quand on regarde les rapports du CSA, y a des statistiques hein, qui montrent que, a priori, la télévision n'est pas du tout représentative de la population, en l'occurrence française, hein, puisque le CSA se concentre sur la France. Donc avec des personnages perçus comme non blanches, un pourcentage très bas par rapport à la réalité. Alors, je ne les ai pas exactement sous les yeux, hein, je ne l'ai pas pris avec moi.
Les statistiques exactes.
Mais par exemple, il y a aussi à 60% des personnages qui sont soit cadres, soit dans des professions sociolibérales ou à des statuts très élevés, alors qu'en fait, dans la réalité, voilà, c'est en dessous des 10%.
On montre plus les riches que les pauvres. En fait.
Exactement. Donc voilà, pareil avec le handicap, c'est vraiment pas du tout représenté. C'est en train de changer. Hein. Là, je vois des séries, j'ai pas le nom, mais c'est un flic qui est en fauteuil roulant, par exemple.
C'est Quint, en l'occurrence, sur France 2.
Voilà.
Mais la série s'arrête.
Peut-être qu'on n'est pas encore prêt à voir ça, j'en sais rien, c'est dommage, voilà, c'est important de souligner ça. Donc, a priori, elle ne représente pas la société, mais quand même, moi, je repars des années 90, justement, avec donc cette arrivée d'HBO, et puis des séries qui ont notamment représenté les Afro-Américains,
oui.
Avec la série The Corner, qui est la série initiatrice de The Wire, qui a été créée par David Simon. Et donc là, il va vraiment dans les quartiers noirs de Baltimore, qui sont majoritairement, où il y a majoritairement des personnes qui subissent les violences policières et puis aussi la délinquance. Ça donne la parole aussi à ces personnes-là. C'est vraiment le propos de cette série-là. Donc, c'est quelque chose que je vais proposer d'analyser avec les personnes qui seront là. Je parle aussi de séries plus récentes avec Years and Years de Russell T. Davis.
Diffusée sur Canal+, je crois.
Diffusée sur Canal+, qui est vraiment en référence avec l'actualité, pour le coup, parce qu'il évoque le Brexit, etc. Donc là, on est en plein dedans. Et la fameuse The Leftovers, dont j'ai passé la musique
évidemment.
Tout à l'heure. Voilà. Mais tout ça pour dire en fait que ce qui est intéressant avec les séries aujourd'hui, et quand tu me parlais des plateformes justement, c'est qu'aujourd'hui, la rapidité de production des séries et surtout le côté leur diffusion internationale grâce à ces plateformes-là, elles permettent quand même aujourd'hui de plus regarder que des séries qui sont faites dans notre pays et qui parlent de notre pays.
Yes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir accès quand même à une production internationale et donc on va pouvoir de plus en plus regarder, avoir un regard en fait sur le monde par ces productions mondiales qui traitent de sujets en fait qui leur appartiennent.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est une force de ces plateformes-là on parle même plus de société, on parle même d'actualité en fait.
Et avec la réactivité que ça implique, et justement un feuilleton populaire, alors qu'il n'est pas international, il est très très local, qui parle justement de l'actualité et qui rebondit dessus. Générique.
La vie est...
Je l'ai pas dit, mais je l'ai beaucoup regardé aussi, Plus belle la vie.
Oh là, la déception. Bien, bonne soirée, c'est très sympa.
Bah, en famille, à 8h au repas, je regarde Plus belle la vie.
Enfin bon, mais ce qui est intéressant quand même dans cette série-là, c'est que voilà, c'est la réactivité par rapport à l'actualité, notamment par rapport aux thématiques LGBT. Quand il y a eu la promulgation de la loi sur le mariage gay, bim, 2 jours plus tard, premier mariage gay célébré dans la série.
Ouais.
Non, c'est intéressant quand même cette réactivité-là. Est-ce que tu penses que les séries françaises, justement, où le feuilleton quotidien réussit un peu ce virage-là?
Avec Plus belle la vie, c'est clairement une référence évidente sur la réactivité des séries, des feuilletons, quoi.
Ouais.
Les autres, je ne les regarde pas trop. Il y en a beaucoup qui sont sortis là, avec Ainsi grand soleil, etc. Mais j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont traités et auxquels ils prêtent attention. Et après, il y a la manière de le traiter. Alors là, je ne sais pas trop comment...
Et tu penses que c'est mieux accepté aujourd'hui, ces problématiques-là, alors qu'il y a peut-être des choses où on se serait dit il y a quelques années, je ne sais pas, un héros de série handicapé, tu en parlais tout à l'heure, un héros de série arabe, hein, on peut le dire. Les choses seraient dit, mais c'est pas possible. On va en reparler juste après.
Ben oui.
Ouais.
Ah oui, je pense tout à fait. Et même, pour entendre un peu, les, même juste voir les jeunes dans la rue aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que... L'autre jour, j'étais dans le tram et je voyais quelqu'un qui avait des problèmes pour se déplacer, etc. Ils étaient là pour l'aider. Enfin, je veux dire, c'est hyper acquis, en fait. Maintenant, les jeunes, ils s'en fichent de ça.
Ouais.
Franchement, y a, en plus, même quand on voit tout ce qu'il y a sur YouTube, tout ce qui... enfin, il n'y a pas que les séries, hein, y a aussi tous les YouTubeurs, etc. Ils ouais, passent vachement de messages, les jeunes, ils sont vachement sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va quand même
alors
sur...
Elle a 25 ans. Les jeunes sont vachement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hein.
Ouais, moi je regarde pas trop les youtubeurs et tout, je suis pas trop sur Snap et tout ça.
Tu es
mais,
sur...
ouais, non, mais pour voilà, je suis aussi par ailleurs dans d'autres projets qui travaillent la question des médias et tout, donc c'est des choses qu'on aborde ouais. quand même au quotidien au travail et oui, ils savent quand même ils savent comment se renseigner, ils acceptent tout à fait ces choses-là et c'est très bien.
Et c'est très bien ainsi. Alors on parlait de Plus belle la vie tout à l'heure. De tout ailleurs, tout à l'heure. Excusez-moi, je vomis, je reviens tout à l'heure. Mais en l'occurrence, ces séries-là, donc Plus belle la vie, et de l'autre côté du spectre, sur Canal+, notamment, la série Les Sauvages, que vous avez présentée oui. en ouverture du festival.
Nous sommes capables du meilleur, et nous sommes capables du pire. Ni ange, ni bête. Nous sommes les deux à tour de rôle. Les plus civilisés des hommes... Les plus parfaits sauvages.
Nouvelle création originale Canal+, Les Sauvages.
Tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui, alors nous on l'a programmé dans le cadre de notre programme régional, puisque dans notre festival, j'ai oublié de le dire, on a un programme international, un programme français et un programme régional pour mettre en avant ce qui se fait aussi sur notre territoire.
Ça tombe bien, on va en parler juste après.
Très bien. Et donc on a programmé donc, Les Sauvages, qui est sorti en 2019, qui a été créé par Rebecca Zlotowski, qui est tiré de l'œuvre des romans en fait, de 4 tomes de Sabri Luata, qui s'appelle également Les Sauvages.
Ouais.
Et donc, ça raconte l'histoire d'un président d'origine kabyle qui devient...
Interprété par Roche Dizem,
d'un homme donc, d'origine kabyle qui est élu président à plus de 50%. C'est assez impressionnant.
Ouais.
C'est, on lit souvent que c'est le Barack Obama français.
Ouais.
Pourquoi pas, en fait, oui. Sauf qu'en fait, il va subir un attentat, il va se faire tirer dessus.
D'accord.
Je spoil rien parce que c'est vraiment le pitch
de la série.
Vous
ouais.
inquiétez pas, y a pas, voilà. mais en fait, à travers, parce que cet attentat, il est commis par un jeune qui est aussi d'origine arabe.
D'accord.
Et on se pose la question, en fait, de pourquoi est-ce qu'il va tirer sur ce président alors que c'est quelqu'un qui est censé le représenter.
Mmh.
Et cette série, elle questionne vraiment l'identité française et la place qu'on accorde à ces personnes issues de l'immigration.
D'accord.
Qui font partie de notre histoire.
Ouais.
Voilà, faut pas l'oublier. Et en fait, ce qui est assez beau dans cette série, c'est qu'il y a tout type de personnages issus de cette immigration-là qui ont soit énormément réussi dans la vie, comme c'est le cas de Roche Dizem et de sa famille, donc du président Chaouche et de sa famille,
ouais.
Ou alors des personnages qui vivent à Saint-Étienne, qui est pour le coup une ville qui est voilà, symbole de ville ouvrière, etc.
Où ouais.
Il y a la famille donc Nérouche qui habite là-bas, dont un des frères est en prison pour avoir justement comment on dit ça, j'ai plus les termes techniques, mais on le soupçonne en fait d'avoir été en lien avec cet attentat là, des appels à la haine,
des appels au meurtre, des choses comme ça, ouais, au terrorisme.
Et entre les deux, il y a le jeune acteur Fouad qui est de la famille Nérouche et qui en fait est le petit ami de la fille du président Chaouche.
Oh
et qui,
là
en fait...
là, toutes les intrications.
Non, mais ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'en fait, il fait le lien entre la famille, arabe, populaire, et cette famille ouais. super riche qui s'en sort super bien.
L'amour qui est entre les classes sociales.
Exactement.
Quoi.
Et en fait, sa famille dit qu'il est blanc, dit qu'il est français, et c'est quelque chose qui n'est pas accepté, en fait. Enfin, qui est difficilement accepté.
Il est un peu vendu, c'est ça un peu
c'est ça, et je trouve qu'à travers ces questionnements-là, ils sont assez justes, parce que je pense que la série, elle se dit, en tant que... français de pure souche, comment est-ce qu'on accepte ces personnes issues de cette immigration-là
ouais.
Mais ces personnes issues de cette immigration-là, comment eux aussi parviennent à s'accepter en tant que Français mm-hmm. Parce qu'ils sont nés en France.
C'est
en
la
fait.
Question, on se pose dans les deux sens en fait.
C'est ça, exactement. Et en fait, ils sont nés en France, ils sont Français,
ouais.
Mais y a un nom qui va dire « moi je vote pas Chaouche, il est Français ».
Ah.
Alors qu'ils représentent ces populations-là.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment intéressant et donc... ça questionne vraiment ces deux côtés-là et je trouve que c'est vraiment une série qui mérite d'être regardé, parce que c'est assez original aussi d'avoir uniquement aussi ce type de personnage-là, de ces origines-là qui est mise en avant. Et
justement, tu parlais de ces séries qui mettent en avant des personnages de la diversité. Il y a une autre série, autre feuilleton, qui met en avant cette diversité-là. Allez, c'est feuilletonnant, mais c'est américain. Le générique de
Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy, absolument.
De Shonda Rhimes. On a bien reconnu.
Et ben absolument. Je fais un petit bisou à ma pote Marie qui est à Chicago, au Chicago, aux États-Unis, qui adore la série. Alors voilà, petit big up, c'est passé. Série qui est bien vue des critiques, paraît-il.
Oui, et d'ailleurs, je l'adore la regarder le soir quand je rentre chez moi, parce qu'elle passe encore.
C'est un petit péché mignon, ou c'est quelque chose que tu regardes vraiment en mode c'est une bonne série?
Je la suis pas de manière. Voilà, mais je trouve que c'est une série intéressante. Et notamment parce que voilà, je suis aussi pour faire ce festival, il faut suivre aussi les critiques, les sorties, ce qui se fait autour de ça.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, cette série, elle est très bien vue en fait de la critique, parce que elle est, je sais plus de quand elle date exactement.
Je crois qu'elle a commencé en 2005 ou 2006, je crois. Hein.
2005 ou 2006.
Quelque chose comme ça.
Et voilà, en fait, bon, on la suit évidemment pour ses intrigues amoureuses, etc. Mais ce qui est vraiment souligné en fait de la part des critiques et des personnes qui s'intéressent à cette série, c'est que elle va aborder l'homosexualité, mais aussi différentes thématiques autour de la sexualité, mais qu'elle va aussi représenter des personnages qui sont d'origine aussi différente.
Ouais.
Voilà. Et en 2005, alors c'est quelque chose qui est bien reçu et qui marche encore aujourd'hui. Ça fait plusieurs saisons. Oui, Shonda Rhimes a initié quelque chose d'assez important à ce niveau-là. Oui.
Au niveau des États-Unis et au niveau local.
Donc tu maintenant, quand vous regardez Grey's Anatomy, au lieu de vous intéresser juste aux intrigues, vous penserez aussi à tout.
Et série américaine, enjeux américains, série locale, enjeux locaux. Avec notamment Askip.
Oui, alors il y a deux séries locales en fait, mais vraiment locales pour le coup, puisque.
Ça pour local, il n'y a pas plus local.
Là, y a, c'est 100% grenoblois. on a montré deux web séries en l'occurrence, puisqu'on est aussi sur cette diversité des formats. Hein. Quand je parle de parler des séries des origines à nos jours, ça prend évidemment en compte les web séries.
Ouais.
Et on a eu le plaisir de présenter deux web séries qui s'appellent donc Askip, qui a été réalisée avec l'association Images Solidaires, avec le soutien en fait de cette association, mais ce sont vraiment les lycéens d'André Argouge qui ont réalisé cette série-là.
Le lycée André Argouge, ouais, ça c'est
le lycée
ça.
André Argouge, tout à fait, ouais. Et c'est sur la base du volontariat.
D'accord.
Ils n'étaient pas du tout obligés de faire cette série, mais ils ont des copains qui sont venus les chercher. Viens, on va faire une web série, ça va être sympa, mais
trop drôle.
Ok, de quoi on va parler? Eh ben, on va parler des problématiques auxquelles on est confronté au lycée. Et en fait,
tu parles de ce qu'ils connaissent, quoi. Ils parlent du lycée.
Non, ils parlent pas du lycée. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ils vont parler d'une grossesse précoce.
Mm-hmm.
Ils vont parler du port du voile, puisqu'il y a une nouvelle qui est arrivée, qui vient d'Algérie. Il y en a une qui porte le voile, qui doit l'enlever quand elle rentre à l'école.
Ouais.
Quand elle rentre dans le lycée, en l'occurrence, ils sont plus à l'école.
Oui, ils sont lycéens.
C'est ça. Ça va aussi parler d'homosexualité. Mm-hmm. Ça va parler des questions de groupe d'amis, du style vestimentaire, par exemple. Il y a une gothique qui n'arrive pas à s'intégrer dans des groupes. Et en fait, ils avaient 17 ans, ils ont voulu parler de ces sujets-là, et ils l'ont fait, ils l'ont projeté dans plusieurs bibliothèques à Grenoble, on l'a reprojeté là. Et on a accueilli en fait un des jeunes créateurs de cette série. Et il a dit que pour lui, c'était important de parler de ça, et que pendant des projections, ça a permis aussi à des jeunes de discuter
motiver,
de ces problématiques.
Ah, de discuter problématiques.
Non, mais carrément de discuter en fait de ces problématiques. Donc j'ai trouvé ça vraiment super qu'il soit là.
C'est intéressant quand même vraiment comment la série va être moteur d'une réflexion sociale ou personnelle, justement. C'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant. Et c'est ce qui se passe aussi avec Sex Education, par exemple, la série
sur Netflix,
sort en
c'est
ce moment,
saison 2.
Qui sort carrément un manuel d'éducation sexuelle. Enfin, je veux dire, la place de l'éducation dans la série aujourd'hui, elle a l'air quand même de prendre plus de place, quoi.
Ouais.
Et donc, comme quoi, elles peuvent avoir un rôle, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, quoi.
D'accord.
Et la seconde, donc je reviens au sujet initial, seconde web série qu'on a montrée, c'est Jean Demage, qui est assez connu, hein, puisqu'elle ils ont 70 000 abonnés et plus d'1 million de vues sur YouTube. Donc ça a été un gros succès, cette web série. Et on les a accueillis à la Maison de la Création et de l'Innovation sur le campus universitaire. Ils sont vraiment géniaux tous les deux. Ils nous ont parlé de leur expérience, d'où ça vient, comme quoi ils sont partis de rien et qu'ils ont juste réussi à s'entourer des bonnes personnes et pour mener à bien ce projet-là. Et aujourd'hui, ils nous ont annoncé qu'ils ont remporté juste, pour préciser, deux prix au Festival de Luchon, qui est un festival
de télévision.
Prix de l'innovation et prix du public de la websérie. C'était un grand honneur pour eux l'année dernière. Et c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer des professionnels de ce milieu-là, et en l'occurrence de rencontrer des producteurs, et donc de se lancer aujourd'hui dans une saison 2.
Waouh !
Voilà, donc et félicitations à eux.
On les embrassera à l'occasion, Mathilde. Là.
Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer, et donc vous allez sur YouTube, Jean Demage, la série, vous allez trouver.
Ça marche. Alors l'émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu as des séries à nous recommander pour l'année 2020.
Je vais parler de séries que je regarde en ce moment que j'adore. J'ai parlé de Sex Education déjà que j'aime beaucoup. En ce moment, je suis en train de regarder John from Cincinnati de David Milch, qui est le créateur de Deadwood, pour ceux qui connaissent plutôt Deadwood.
Qui est plutôt cowboy, hein, ça.
Cowboy. Et là, c'est assez drôle. ça se passe pas.
C'est assez drôle. Et tu t'attends à un truc qui va être drôle. En fait, ça va être un truc qui va être pas drôle du tout.
Mais après, il y a la manière de le raconter aussi qui est pas super évidente.
Pitch-le bien.
Mais en fait, c'est dans le coin de San Diego, à Imperial Beach. Il y a un jeune John qui vient de Cincinnati, qui débarque en fait au milieu d'une famille.
Un jeune John.
Qui débarque au milieu d'une famille et la série commence où c'est beaucoup lié au surf, en fait.
D'accord.
Et il y a le père de la famille qui se retrouve à être en lévitation au-dessus du sol et il ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, il y a toute une série d'événements, de moments un peu surnaturels.
C'est une série comique, plutôt dramatique, plutôt fantastique, c'est plutôt...
C'est un peu tout, hein.
D'accord.
et voilà, j'aime beaucoup. Notamment ce personnage de John qui, pour ceux qui regardent Twin Peaks, me fait beaucoup penser à Dougie Jones qui réapprend à parler dans la saison 3 notamment. Et je pense que David Lynch s'est beaucoup inspiré de ça.
D'accord.
À voir. Il n'en a pas parlé, mais on a... Voilà.
Vas-y, un autre petit conseil rapide et puis après on va...
Un autre petit conseil rapide.
Elle réfléchit.
Alors là, j'ai pas tout de suite.
Tu sais quoi, réfléchis-y. Et pendant ce temps-là, on va avancer dans l'émission parce que l'émission touche bientôt à sa fin.
Allez-y.
Il nous faut un nouveau cliffhanger. Héloïse, tout à l'heure, j'ai souhaité rompre avec toi. C'était une erreur. Que dirais-tu de m'épouser? Maintenant, on se regarde. Comme dans Marié au premier regard sur M6.
Nous avons trouvé un homme compatible à 87%. Je pensais pas que ça me ferait une émotion.
Ils se sont lancés à pari fou. Se rencontrer le jour de leur mariage.
Je me marie dans un mois.
Mais je sais pas qui c'est.
Un vrai mariage?
Tu vas pas nous faire ça.
Ils vont être obligés de s'investir. Ils vont se dire, je suis engagée en couple, je construis et je vois ce que ça donne.
C'est le moment que j'attendais, je vais le voir, donc j'ai hâte.
Si physiquement ça fait pas, ça ne pourra pas aller plus loin.
Il y a un risque parce qu'on a prévu que l'attraction physique serait pas forcément évidente au premier regard.
Auront-ils le courage d'aller jusqu'au bout? Inédit, Marié au premier regard, demain 21h sur M6.
Quel suspense, Soro. Auront-ils jusqu'au bout? La réponse tout à l'heure, Héloïse, j'attends ta réponse. Puisque le concept de l'émission Marié au premier regard, un homme, une femme, dont le couple a été formé à partir de tests de compatibilité, qui se rencontrent le jour de leur mariage organisé par M6, sinon c'est pas drôle. Mathilde, cette histoire de Marié au premier regard t'a inspiré pour ton instant narration. D'ailleurs, demain, c'est la Saint-Valentin. Et c'est à toi, Mathilde, pour ton instant narration.
Bonsoir à tous. Je suis venue parler pour ma sœur Céline. Elle m'a témoigné de son histoire. Petite, moi-même, j'adorais les mariages. J'adorais l'ambiance qu'il y avait, les invités qui réentraient en se racontant des histoires datant parfois d'une autre décennie, tout en trinquant avec leur verre de champagne. Les belles tenues des demoiselles d'honneur font de belles photos. En parlant de la mariée, c'est bien, je trouve, la plus belle chose que l'on puisse voir ce jour-là. Accompagnée de son homme, elle déambule dans la salle des fêtes, sa robe blanche immaculée traînant au sol et ramassant au passage quelques confettis. Son corset lui dessinant délicatement les hanches et la taille, sa coiffure tout droit sortie d'un conte de fées. Son voile blanc délicatement décoré de fleurs blanches et de perles de nacre. Le mari, qui ne la quitte pas du regard, n'arrivera à réaliser que plus tard qu'il l'a épousée. N'est-ce pas quelque chose de magnifique de personnes qui se marient, qui se disent oui pour la vie et s'unissent, prêts à se jurer fidélité et soutien pour le meilleur et pour le pire? C'est, je trouve aussi, faire preuve de courage de se marier, de s'unir avec une personne pour un nombre d'années qu'on ne connaît pas, mais qu'on espère être le plus long possible. Ma sœur Céline a décidé de se marier d'une manière qui en surprendra plus d'un. Non seulement, contrairement à ce que l'on pourrait considérer comme étant la base pour se marier, elle ne connaît pas son futur mari. Enfin, à vrai dire, elle l'a vu qu'une seule fois. Mais... la seule chose sur laquelle elle se base pour se marier avec lui est que scientifiquement, ils se correspondent à 80%. C'est un beau pourcentage, n'est-ce pas ? On pourrait s'imaginer là qu'ils s'entendront très bien dès les premières minutes et qu'ils vivront heureux. Mais je me suis posé quand même quelques questions. Est-ce qu'il est nécessaire au final de connaître la personne pour être prêt à s'engager avec elle ?
Non.
Est-ce qu'on doit se baser sur un pourcentage pour déterminer à quel degré sera notre alchimie et nos chances de nous correspondre ?
Oui.
Est-ce que le fait de n'avoir jamais vécu avec cette personne poserait des problèmes relationnels au sein du couple ? Peut-être. Et encore beaucoup d'autres comme celle-ci. Je pense à l'évidence que tout le monde dans le studio et au sein des auditeurs a la bonne réponse sur ces questions. Mais ma sœur, à 27 ans, a décidé de tenter le coup. Elle s'est alors inscrite à l'émission. J'ai choisi avec elle sa robe de mariée. Nous avons invité tous les amis et toute la famille. Et elle a vu qu'une seule fois son mari. Je suis très contente pour elle, même si la plupart des mariages de ce genre finissent par une séparation, j'ai bon espoir que ça ne soit pas le cas pour elle. Il y a aussi plusieurs faits d'actualité qui relatent de ces mariages. Par exemple, lundi 3 février, les téléspectateurs ont découvert le portrait d'Olora, une nouvelle candidate de Marie au premier regard. Très complexée par ses formes, la jeune femme a eu une attitude déconcertante lors de l'essayage de sa robe de mariée, de quoi provoquer la colère des internautes qui ont accusé la jeune femme d'exagérer la situation. Avec Cyril, un technicien de 27 ans, la jeune femme était compatible à plus de 70% selon les experts. Si le jeune homme s'est montré plutôt enthousiaste à l'idée de participer au programme et à l'idée de rencontrer une femme aussi compatible scientifiquement avec lui, la jolie brune a quant à elle émis ses doutes et réserve concernant la rencontre avec son époux. Mais les doutes se sont envolés dès le premier regard, le feeling est immédiatement passé et ils se sont dit « oui ». Dans le dernier épisode, on pouvait constater que tout allait pour le mieux entre les jeunes mariés et que le début de leur lune de miel avait l'air idyllique. Applaudissements des invités.
Merci Mathilde pour cet instant narration plus joyeux que d'habitude. Le mariage, l'amour, le bonheur.
Bah, j'ai décidé de faire une fin positive pour une fois.
Ça me fait penser à une série pour le coup.
On t'écoute.
À Osmosis.
Osmosis, qu'est-ce que ouais. Ça raconte cette série ? Sur Netflix, je crois.
Ouais, sur Netflix. Donc c'est justement ces tests de compatibilité là où il y a plein de gens qui ont cette application où ils sont de compatibilité. Et bon, il y a plein d'intrigues autour. Voilà, mais malheureusement, elle n'a pas été renouvelée, je crois, cette série.
Ah, elle n'a pas suffisamment marché pour les téléspectateurs.
Comme quoi, le test la compatibilité, finalement.
Le test de compatibilité entre la série et les téléspectateurs n'a pas marché.
N'a pas marché, exactement. Mais bon, à tester. Hein.
À tester, écoute. Héloïse, alors ? Tu m'as épousé.
Pardon.
Tu peux dire non. En fait, il faut dire non.
Ouais, il faut dire non, ouais, parce que.
Sinon, ça va nous créer des problèmes à chacun d'entre nous, à la maison, tout ça. Ça va être compliqué, quoi, tu vois. Alors, vaut mieux s'arrêter là, puisque l'émission va toucher à sa fin. Mathilde, générique. Alors, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission d'Open By en direct sur News FM. Il est 21h07. Merci, Héloïse, d'être venue dans l'émission.
Merci de m'avoir accueilli, avec plaisir.
C'était un bonheur de t'avoir avec nous. On a appris plein de choses sur les séries, sur ce festival. Jusqu'à samedi, dépêchez-vous, allez la voir vraiment. Là, ce sera pareil, sauf que vous pourrez lui poser des questions, vous pourrez interagir avec elle et tout. Ce sera super sympa. Petit big up à Nora Ouazizi, dont c'est l'anniversaire, chef de projet Ville de Grenoble, qui nous soutient, qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse, qu'on avait reçu dans l'émission d'ailleurs. Merci à toi Mathilde pour ton instant narration.
Ce fut un plaisir.
Plaisir partagé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin en couple ou en solo. Bon, moi vous l'aurez compris, vu qu'avec Héloïse ça n'a pas marché, c'est en solo. Mais d'ailleurs, si vous êtes une belle fille intelligente, célibataire de 18 à 27 ans, que vous n'avez pas de plan romantique pour la Saint-Valentin, sachez que je serai demain soir au Batman Kebab à Grenoble de 20h47 à 21h33. Une occasion à ne pas manquer pour un rendez-vous romantique. Ou sinon, profitez de l'occasion pour penser peut-être d'abord à vous. Car même si d'aucuns ont des aventures, moi je suis une aventure. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée sur News FM. La musique continue. Là, c'est quoi ? Still Down June de je ne sais pas qui, Ashanti. Bon, écoutez ça, ça va être sympa. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Yes, I strapped and ride for the princess, the one and only princess. Click bang, she rep that ink gang, G thing, huh? Yeah, and the G is for gangster.